tirage que vous voyez là, parce que est en fait un album jeunesse que j'ai travaillé longuement avec une amie conteuse qui a ramassé dans le monde entier des contes. Et son travail, c'est soit de faire des visites culturelles avec des contes, elle a un style merveilleux, elle les réécrit fort bien. Et elle s'était approchée de moi en me demandant qu'à travers tous ces contes qu'on a ramassés dans toute l'Europe, en Afrique, au Japon, en Asie, on trouvait énormément de références textiles, que ce soit les outils, que ce soit les savoir-faire, que ce soit les vêtements. Et ces références textiles, partout dans le monde, elles sont extrêmement présentes dans les contes populaires. Donc, on a fait ce travail en se disant, on va décrypter des contes et essayer de trouver les raisons et les raisons historiques qui sont apparues très vite évidentes. C'est pour ça que vous voyez le sommaire là derrière nous. On a d'abord, pendant plus d'une année, décrypté plus d'une centaine de contes en faisant vraiment les fiches de lecture comme en sixième. Et là, on voyait très très vite, on s'est aperçu que quel que soit le pays, il y avait des thématiques qui ressortaient. Donc c'est assez extraordinaire. Par exemple, la transmission mère-fille. Transmission mère-fille qui peut être positive et négative. Et c'est toujours très ambigu dans chaque conte. C'est-à-dire que la mère peut vouloir que sa fille devienne aussi habile qu'elle, aussi belle, sinon plus. Et puis il y a les mères qui ne veulent pas entendre parler de voir leur fille devenir femme habile et belle. Donc on retrouve tout ça. Ça, c'est juste un exemple. Donc, comme je ne veux pas vous tenir trop longtemps, je vais juste vous dire les 5 chapitres auxquels nous sommes arrivés. D'abord au fil du temps, dans la mesure où c'est le fil de la vie. Et là, cette image que, bien entendu, au niveau histoire, il est fort facile de décliner, puisque dès l'Antiquité, tout commence avec ce fil de la vie, ce cordon ombilical qu'est le fil. Et ça, on le retrouve dans tous les pays. Alors, on va avoir le fil magique, le fil, les chevaux de la destinée. On va avoir dans tous les pays cette image très, très liée du temps et du fil. Cela vient aussi du fait de la durée des travaux textiles. On l'a vu, et vraiment, je me suis régalée tout cet après-midi parce que vous avez tout dit, tous ceux qui sont intervenus, tout ce que nous avons trouvé dans les contes, vous l'avez dit. Donc, je suis contente plutôt. Oui. La deuxième chose, c'est le fait que ces textiles, c'est un trésor à transmettre. Un trésor à transmettre soit le métier, soit l'outil, soit le tissu lui-même. Et un trésor à qui souvent il va arriver toutes sortes de malheurs. Et tout se déroule le long des siècles pour en arriver à certains contes où vous voyez apparaître cette notion dont on vient juste de parler dans les Andes, quand on dit que la jeune fille doit avoir fait le carré là, qui sert à tout, et le poncho pour l'homme, finalement, c'est une espèce de trousseau qu'elle prépare. Hein. Donc cette notion-là de trousseau, on la trouve dans tous les contes et dans tous les pays. Et on aura des contes européens extrêmement drôles, d'ailleurs. Il y en a un qui s'appelle « La langue perdue » et qui montre une femme trop bavarde. Bien sûr, son mari lui dit « Mais tu vas pas arrêter, tu tais vraiment, j'en peux plus » et tout. Très, très vexée, elle se tait. Alors lui, il s'ennuie au bout d'un moment. Donc il va la tenter par toutes sortes de choses. Il essaye de la faire chuter, bouche cousue. Mais le jour où il s'approche de l'armoire familiale, le jour où il ouvre les portes de l'armoire, où il fait tomber par terre les piles de draps, où il jette par la fenêtre les mouchoirs, elle crie, elle hurle, elle braille, ça y est, elle a retrouvé sa langue. La troisième famille, c'est la magie, le rôle magique, qui peut être positif et négatif, toujours la même ambivalence. Et on l'a vu avec le fil en S qui, à gauche qui peut porter malheur, et on le voit bien dans les broderies, avec tout le rôle et l'importance de cette valeur ajoutée qu'on va apporter à l'étoffe quand on veut qu'elle reflète la beauté, quand on veut qu'elle éloigne les mauvais esprits. Là encore, on trouve ça dans des contes du monde entier, y compris la broderie protectrice autour de tous les orifices que vous retrouvez sur les boubous sénégalais, par exemple, et dans les contes toujours aussi. Enfin, plus précieux que l'or, c'est la valeur de l'étoffe, je dirais la valeur marchande. Et on le verra dans l'histoire, on verra les échanges, on verra les contrats qui se font entre les différents seigneurs et les différents pays. Pensons à la Chine qui a quand même protégé pendant des siècles et même des millénaires la production de la soie. Il y avait vraiment plus précieux que l'or, on le retrouve comme une thématique absolument permanente. Enfin, notre cinquième chapitre, c'est les parures. Et là, la parure dans le conte, c'est extrêmement intéressant parce que vous en avez trois. Vous avez d'abord les haillons. On est beaucoup, beaucoup, beaucoup à haillons. Pourquoi ? C'est la culture populaire. Ça ne va pas très bien au long des siècles et dans les fermes et ailleurs. Et on est plus souvent en haillons qu'en habit de roi. Le deuxième vêtement dont on parle beaucoup, c'est la chemise. Et on peut la mettre dans le côté aussi magique, parce que la chemise, on est tellement content d'en avoir une. C'est tellement porteur de symbolique, puisque ça se porte à même la peau. Donc la chemise du père va protéger le nouveau-né. On a toutes sortes de croyances comme ça, que l'on retrouve dans les contes. Et le troisième vêture, si je peux dire, c'est vraiment la parure au sens parure. C'est-à-dire que dans les contes, il n'y a jamais de mode. Il n'y a jamais de bon chic, bon genre. C'est tout juste si le prince charmant, découvrant la belle au bois dormant, dit qu'il la trouve quand même un peu habillée comme sa mère grand, mais c'est la seule petite notification. C'est toujours la parure qui est importante, et la parure, vous allez la trouver dans des rêves extraordinaires d'étoffes couleur de lune, l'histoire de peau d'âne. Et le maître mot de la parure dans le conte, et ce qui le distingue, et en même temps on le comprend par rapport à la vraie vie, c'est que dans les contes, l'habit fait le moine. Mais vraiment, l'habit fait le moine. Quand le chaboté met les vêtements de son maître, il devient le marquis de Carabas. Plus personne ne voit ses poils, ses moustaches, ses griffes, plus du tout. Il est marquis de Carabas. Quand peau d'âne épouse son prince, elle est toujours vêtue de sa peau d'âne, et le conte se termine, elle la laisse tomber, elle a mis sa robe couleur du temps, alors elle est princesse et elle est reine. Donc le plus abominable des larrons, du moment qu'il revêt la parure qu'il faut, le devient. Donc voilà ce qu'on a voulu faire. Maintenant j'appuie sur quoi pour vous montrer les images, juste pour vous reposer, la petite flèche, voilà. Donc alors je dois dire maintenant, c'est un vrai travail collectif, vous avez compris, le travail de sens, on l'a fait, c'est un tissage à quatre mains, entre Anne Lascou et moi, on a fait tout ce travail de recherche, ensuite elle a merveilleusement écrit, elle a un vrai don d'écriture et un vocabulaire textile merveilleux, elle se joue aussi des couleurs, des matières, et ses contes se lisent avec délice, pour grand comme pour petit, et puis moi, j'ai donné les explications, le pourquoi, ce que je viens de vous raconter très, très rapidement. Donc, et enfin, la beauté a été apportée aussi par Charlotte Gastaud au niveau des illustrations. Ça, c'est un conte africain, les robes forteresses, où les femmes vont arriver à envahir un village en marchant cachés sous leurs robes forteresses qui sont faites de papyrus qui ont été pliés, broyés et tout. Voilà l'esprit des images, le trésor à transmettre. Les habits de fête, c'est aussi un conte africain où là, une mère refuse à sa fille l'épingle et les bijoux qui vont lui permettre d'aller danser et où elle va rencontrer une très très vieille petite dame qui est un peu sorcière, qui a le dos tout voûté, un dos qui s'ouvre comme une figue et dans lequel elle va trouver les habits pour aller au bal. Vous voyez comme elle est contente. Voilà. Les trois fileuses. Alors, c'est un merveilleux conte qui a été repris par les frères Grimm, d'ailleurs, où on voit une bergère qui épouse un prince, très nouveau comme idée, et cette bergère a trois sœurs qui vont être présentées à la cour. Et le mari lui dit, mais enfin, mais quelle horrible parenté tu m'amènes. Et pourquoi ? Parce que l'une a la lèvre qui pend d'avoir mouillé le fil, l'autre a le pied trop large parce qu'elle a écrasé le rouet. Enfin bon, elles sont horribles. Et tout ça, c'est dans les contes populaires, c'est la façon de se moquer et de passer par-dessus ce qui était quand même des contraintes matérielles énormes. Et tout. Et bien sûr, le prince dit à son épouse, et surtout, tu ne toucheras plus jamais un rouet de ta vie. Voilà. Alors, les merveilleux outils... Voilà la langue perdue dont je vous parlais. Il y a un précieux petit rien, c'est un délicieux petit conte d'origine juive où on voit justement ce trésor qu'on se transmet. Il faut aussi, dans la vie quotidienne, le sauver, l'entourer de soins. Donc ça veut dire qu'on va ravauder, on va coudre, on va rapetasser, on va sauver le moindre petit bout de tissu. Et cet esprit d'économie, on le trouve dans ce conte où, qui part d'un ce brave garçon tout noir vêtu que vous voyez, avait un magnifique par-dessus qui va terminer, grâce aux soins de son grand-père, d'année en année, qui va terminer en petit bouton pour tenir la poche de son gilet près de son cœur. Et finalement, il sera obligé de le jeter et de se contenter de séduire les filles par lui-même. Voilà. Alors, la magie des tissus, c'est toujours ces histoires de belles et de monstres, et les tissus qui interviennent pour sauver l'homme. La fileuse d'ortie, la chemise de la fée, je vous dis, il y a toujours ce rôle de la chemise. La chemise de la fée, c'est aussi un berger toujours, qui adore la nature. La COP21, il connaît, il y a des descriptions extraordinaires de nature. Et il va capturer, voilà ce qui lui arrive, il voit des petites fées qui se baignent. Et toutes les petites chemises des fées sont sur des rochers. Puis il en guigne une qui lui plaît vraiment, il prend la chemise, et du coup la fée est obligée de, magiquement, vous voyez, est obligée de partir avec lui. Donc elle va vivre avec lui pendant 10 ans, il a rangé la chemise dans un coffre, mais un jour la fée elle en peut plus, hein. Elle ouvre le coffre, et la chemise s'empare de la fée, et la voilà, voilà qui disparaît. Donc il est désolé, il va faire des kilomètres, grimper à un fil irisé, et là, il va retrouver sa fée. Mais cette fois, la chemise, il va la brûler et la fée est obligée de rester avec lui. Plus précieux que l'or, hein, Venu de la mer est un merveilleux conte qui est sur l'histoire de la pourpre du murex. Donc ça nous vient. Vous voyez, les racines de ce conte viennent de l'Antiquité complètement. Un conte japonais. Voilà. Ah ben oui, bien sûr. Voilà, on arrive à la femme oiseau, les contes orientaux, voilà, et les parures. Donc vous avez peau d'âne, la voilà avec sa robe couleur de temps, le diable et la fileuse, les 7 robes, toujours ces rôles extraordinaires. Et alors on a voulu terminer. On a voulu terminer avec un clin d'œil, c'est la chemise de l'homme heureux. Vous savez comment il est, l'homme heureux ? Il est sans chemise, justement. Et on se disait que finalement, c'était la meilleure démonstration de l'importance du textile, puisqu'on voit quelqu'un à la recherche désespérée du textile et quelqu'un qui est heureux parce qu'enfin, on lui fiche la paix avec tout ça. Et voilà, et le livre se termine, donc voilà les explications historiques avec ce jeu de découpe laser. Il faut dire que l'éditeur, donc Albin Michel, a vraiment, on a eu une équipe formidable. C'est un bel objet, oui, oui, j'avoue, c'était un beau, beau travail collectif. Voilà, je m'arrête parce que vous devez être épuisé.
Merci beaucoup, ça nous fait des beaux cadeaux de Noël.